لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors mes chers frères en islam, nous abordons ce soir le dernier point concernant les questions à propos desquels chaque personne, chaque être humain aura à répondre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, avant même que le compte ne commence. Avant qu'on parle de hisab, il y aura des questions auxquelles personne ne pourra échapper le jour de qiyam. Quel que soit le degré du iman, et même les kuffars, ils auront, selon certaines sources, à répondre de ces questions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu la dernière fois, si je ne me trompe pas, les questions concernant ce qu'on regardait avec nos yeux, ce qu'on écoutait avec nos oreilles et les intentions qui étaient prises dans notre cœur. La fois d'avant, on avait vu que chaque musulman aura à répondre sur les ni'amat qu'Allah lui a accordées concernant la famille, si cette personne a eu une épouse et si cette personne a eu des enfants accordés donc par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le dernier point qu'on va voir ce soir, inshallah, c'est cette série de questions auxquelles personne ne pourra échapper avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala commencera le compte de chaque personne individuelle. Donc on distingue les questions qui sont posées à chaque personne, et puis il y a le hisab khas, c'est le hisab spécifique où chaque personne se retrouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y aura pas d'intermédiaire, et où Allah ta'ala, il posera des questions à propos d'actions précises accomplies ou d'actions précises qui n'ont pas été faites. Alors parmi ces questions, c'est les questions à propos de la vie, comment la vie a-t-elle été passée, questions concernant la science que la personne a pu avoir de la part d'Allah et donc la pratique qu'elle en a faite. Troisième question concernant les biens que la personne a eu de la part d'Allah et comment elle l'a utilisé. Quatrième question concernant le corps, c'est-à-dire la santé qu'Allah a accordé à cette personne et comment est-ce qu'elle a fait utilisation de ce ni'mat. Et enfin, question concernant la jeunesse, lorsque cette personne a eu la période de jeunesse, cette période où elle avait la force et le courage et tout, et comment est-ce que cette personne a passé ce laps de temps durant sa vie. Donc, en commentaire, le muhaddithin nous explique que ces étapes, comment pour expliquer ça, ces étapes sont essentielles, c'est-à-dire qu'un homme, un musulman ne pourra passer de cette étape à une autre étape sans qu'il n'aura répondu à ces questions précises concernant ces bienfaits qui lui ont été accordés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour certaines personnes, ces questions vont être très longues. Certaines personnes vont être arrêtées même, ce sera muwaqqaf. Ces personnes, ils vont devoir répondre pendant longtemps à propos de ces questions. La raison est que, en fonction du degré de ni'amat qu'on a eu de la part d'Allah concernant la vie, la science, les biens, la santé et la jeunesse, plus on a eu ces ni'amats de la part d'Allah, évidemment, plus on aura à répondre à propos de ces bienfaits. Ce hadith très connu d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. C'est pour ça que parfois, les personnes qui sont pauvres et qui n'ont rien, ils croient qu'ils ont tout perdu, ils n'ont rien eu de la part d'Allah. Mais vous savez, plus on a de ce monde, plus on aura à répondre. Plus on a des biens, plus on est riche, plus on a eu des faveurs de la part d'Allah, mais en même temps, on aura plus à rendre compte le jour de Qiyamah. Ce n'est pas pour rien si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué que les pauvres entreront au paradis 500 années avant les riches. Même si c'était un riche qui était pieux, qui était dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la personne qui vivait pauvre dans ce dunya, par rapport au fait qu'elle n'avait rien, alors elle accédera au paradis plus rapidement. Ce hadith très connu d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu قال: لا تزول قدم عبد يوم قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما علمه. Ce hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, par Abu Burza al-Aslami, également par Hadith Mu'ad ibn Jabal, donc cité dans beaucoup de livres de hadith, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que chaque personne, le jour de Qiyamah, aura à répondre de ces questions, aura à répondre de ces choses précises à propos de sa vie, comme on a dit tout à l'heure, à propos de sa jeunesse, à propos de ses biens, d'où est-ce qu'il a eu ses biens et comment il a dépensé, et wa ma amila fi ma alim, et qu'est-ce qu'elle a mis en pratique concernant à propos de la science qu'Allah lui avait accordée. Et pourquoi est-ce que chaque personne devra répondre de ses bienfaits? Parce que comme on l'avait déjà expliqué, quand Allah Ta'ala donne un bienfait à une personne, ça c'est un amana, c'est un dépôt. Et qu'on comprenne bien que lorsqu'Allah Ta'ala nous donne quelque chose, c'est pas qu'on l'a eu par notre intelligence, c'est pas qu'on l'a eu par notre héritage familial ou autre chose. Si Allah nous donne quelque chose, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Et Allah Ta'ala, il regarde comment est-ce qu'on va agir par rapport à ce qu'Allah Ta'ala nous a donné. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui peut travailler, qui a la force physique, hein, qui n'est pas dépendant de médicaments ou autre chose, alhamdoulilah, mais cette personne, elle aura plus de comptes à rendre sur sa santé qu'une personne qui avait des problèmes de santé en permanence, qu'elle ne pouvait pas travailler, ou elle était alitée, ou alors il y avait tel souci. Comprenons bien qu'une personne qui avait les biens de ce monde, une personne qui était riche, qui avait tout ce qu'il voulait, cette personne, ce qu'Allah Ta'ala attend de cette personne par rapport à ses bienfaits, ce n'est pas comme ce qu'Allah attend d'un pauvre. Et donc, celui qui a eu des biens de la part d'Allah, qu'il s'attende à être questionné à propos de chaque euro, de chaque centime que cette personne a eu, de quelle manière et comment elle l'a dépensé. Donc, chaque ni'amat qu'Allah accorde à quelqu'un, c'est un dépôt, c'est un amana, et on aura à répondre de l'utilisation de ce bienfait. Taïb. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit, surat wal-asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bil-sabr. Dans ce surat très court, un des plus courts surat du Coran, les mufassins expliquent que Allah Ta'ala annonce que l'homme est dans la perdition. À l'exception, sauf la personne qui a donné, idha lam yar'ab ila idha lam yar'a haqq Allah fima sa'alahu fi'alahu. Une parole talam un peu tawil dit que à l'exception de cette personne qui s'est acquitté des droits d'Allah et qui a vécu comme Allah Ta'ala lui a demandé. Celui qui a vécu comme Allah lui a demandé avec la foi, l'accomplissement des bonnes œuvres et qui s'enjoignait mutuellement à accomplir le bien et à rester dans la vérité et à faire preuve de patience, mis à part ces gens, l'homme est dans la perdition. Donc, celui qui a eu des bienfaits de la part d'Allah et qui ne s'est pas acquitté des droits d'Allah sur ses bienfaits, cette personne est assurément dans la perdition. Maintenant, le premier point qu'on aborde, on va faire très rapidement, c'est des points qu'on a peut-être déjà abordés avant, deux minutes, hein, la question concernant la jeunesse, la question concernant le laps de temps que la personne a eu à partir de Al-Boulour, allez, de 13, 14 ans, jusqu'à 25, 30 ans ou 33 ans, jusqu'à la force de l'âge qui a 33 ans. Pendant ce laps de temps, comment est-ce que vous avez passé votre jeunesse? Cette question sera posée à l'homme comme à la femme. Il n'y a pas de distinction dans le hisab entre l'homme et la femme. Donc, chaque personne aura à répondre de ce laps de temps, comment elle l'a passé. Et ça nous fait bien comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas croire. Parfois, il y a des jeunes qui croient, qui se planifient leur vie, se disent que j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, je profite à fond de la vie. À 25 ans, je me marie, donc j'arrête certains péchés, donc le zina, je ne sors plus avec les filles, je ne sors plus en boîte, mais je continue à faire certains petits trucs, mais à 29 ans, 30 ans, là je me calme, et à 35 ans, 40 ans, là c'est bon. Là je laisse pousser la barbe, là je viens à masjid, 5 namaz, là je me retire complètement, j'ai fait mon dhikrullah, j'ai le Coran tous les matins, après fajr, et je suis régulier dans les a'mal. Alors, cette personne pense pouvoir tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne croit qu'Allah Ta'ala, certainement Allah Ta'ala est pardonneur. Mais Allah Ta'ala, il connaît également quelle est notre intention. D'accord? Une différence entre quelqu'un qui était dans le mauvais chemin et qu'Allah Ta'ala a guidé à un certain âge, différence entre cette personne et celui qui a planifié. J'ai dit que je fais tout ce qui est existant comme péché, je profite, je jouis de la vie de toute manière possible. Et à l'âge de 40 ans, comme l'âge papa, là c'est bon, là je commence à venir à la masjid. Est-ce qu'on peut penser une seconde qu'Allah Ta'ala ne connaît pas notre intention? Ça c'est sûr qu'Allah Ta'ala il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, mes chers frères. Donc, qu'on comprenne bien que même si, regardez, par exemple, le cas d'Imam Mehdi. Imam Mehdi, selon certains ulama, pourquoi il s'appelle Mehdi? C'est parce qu'il a, selon certaines sources, il passe une partie de sa vie comme n'importe quelle personne et ensuite Allah lui donne la guidée. Donc si quelqu'un était dans l'ignorance ou dans le rafla, dans l'insouciance, et qu'Allah lui a donné la hidayat à 35 ans, 40 ans, il commence à venir à salat, etc. Cette personne n'est pas comme quelqu'un qui avait déjà l'intention de faire toutes les bêtises
et de commencer à venir à la salat à l'âge de 40 ans. Donc, Allah, il connaît qu'est-ce qu'il y a dans notre niya. Donc, on pourrait prendre l'histoire, comment on pourrait organiser ça pour pas dire tout en même temps. Dans ce laps de temps, allez, même si une personne a eu la guidée de la part d'Allah à un certain âge, mais elle ne sera pas le jour de Qiyama, elle n'aura pas la même position, elle n'aura pas le même degré que cette personne qui a passé sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah et qui a continué à grandir jusqu'à la mort dans l'obéissance d'Allah. Parce que la personne qui a eu cette chance de la part d'Allah de passer sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah, cette personne aura un grade spécial. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Même si à l'âge de 40 ans on devient Hafizul Quran, on va faire alim, on va faire mufti, on devient Cheikh al-Hadith, on fait tout ce qu'on veut à l'âge de 40 ans, mais ce qu'on a pendant la jeunesse, ça c'est, on ne pourra plus le rattraper. Et ce n'est pas pour rien, si le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala, il choisira parmi les personnes qui seront sous l'ombre de son trône le jour de Qiyamah, Shabun Nasha'a fi ta'atillah, le jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. Ce jeune qui a eu, jeune garçon comme jeune fille, qui a eu la chance, le tawfir de la part d'Allah, de passer sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah, et en restant éloigné de ce qu'Allah Ta'ala a rendu haram, et on l'explique encore une fois, ça ne veut pas dire de vivre dans une mosquée. Il n'a pas été dit qu'on reste dans le masjid en permanence, on reste dans le madrasa en permanence. Si quelqu'un il est dans Darul Uloum, ça c'est autre chose. Mais on peut avoir un mode de vie, un rythme de vie normal, une vie professionnelle, mais tout en restant dans l'obéissance stricte des ordres d'Allah, et en restant éloigné de tout ce qu'Allah Ta'ala a rendu haram au makrou. Ce jeune, Inch'Allah, le jour de la résurrection, il se verra appelé pour se rendre sous l'ombre du trône d'Allah le jour du Qiyam. Et comme on l'a dit, on le répétera pour une troisième fois, même si notre voisin, il était plus pieux que nous. Il faisait toute la nuit tahajjud, tous les jours il jeûnait, mais il a commencé ses actions à l'âge de 45 ou 50 ans, même si à la fin de sa vie, il faisait plus de bonnes actions que nous, mais à partir du moment où on a eu la possibilité de grandir, de rester dans l'obéissance d'Allah depuis la jeunesse, le rang qu'on aura sera nettement, mais nettement supérieur au rang de cette autre personne. Et lorsqu'on avait demandé des conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les conseils qu'il avait dit, que irtanim khamsan qabla khams, profite, prend soin, yani de cinq choses avant cinq choses, et parmi ces choses-là, shababuka qabla haramik, de ta jeunesse avant la vieillesse. D'accord? Parce que dans la jeunesse également, on a la force, comme on dit, la force de l'âge, la possibilité de faire des bonnes actions, la force physique pour faire rosa, pour faire tahajjud, pour sortir, etc., etc. Et il est dit dans le hadith que si une personne qui avait l'habitude de faire beaucoup de bonnes actions dans sa jeunesse et que à cause de l'âge ou à cause de la maladie, cette personne ne peut plus accomplir autant de bonnes actions. Cette personne ne peut plus tenir ce rythme. Si donc on était jeune, on faisait un katam par semaine. Tous les soirs, tahajjud depuis 3h du matin. Tous les lundis, jeudi, on jeûne. Quelqu'un a fait ça toute sa jeunesse. Et qu'arrivé à un certain âge, 50 ans, 60 ans, il y a problème diabète, il y a problème tension, qu'Allah nous protège, il donne la santé à tout le monde. Tel problème de santé, et que le docteur dit maintenant, vous ne pouvez plus faire ça. Il faut vous reposer 12 heures par jour, vous ne pouvez plus jeûner, etc., etc. Hadith dit en ce sens, hadith authentique, qu'Allah Ta'ala ordonne aux anges d'inscrire pour cette personne âgée ou alors malade les mêmes actions qu'elle accomplissait dans sa jeunesse ou alors qu'elle accomplissait quand elle avait la santé. C'est-à-dire parce que son niyat était de continuer à faire ses actions, mais la vieillesse ou alors la maladie lui a empêché de faire ses amal. Donc la personne qui est âgée mais qui avait ses bonnes habitudes, ses actions sont écrites de manière perpétuelle jusqu'à sa mort. Ça c'est le mise, ça c'est la spécificité qu'il y a dans le ibadat de la personne qui est jeune. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie particulièrement les ibadat qui sont faits dans un contexte difficile. Lorsqu'il est difficile d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que la récompense est plus grande. Dans d'autres hadiths qu'on avait cités, dans d'autres contextes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué aux sahaba quelles seront les fitnas à la fin des temps. Fitna concernant consommation d'alcool, concernant l'adultère, le zina, etc., etc. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait spécifié que la personne qui, pendant ces périodes de corruption, reste ferme dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit aux sahaba, que cette personne aura qu'à ajri khamsina minkum. Cette personne aura la récompense de 50 parmi vous. Les sahaba, ils ont demandé 3 fois. Ou khamsina minhum. C'est-à-dire qu'ils auront certainement la récompense de 50 personnes parmi les gens de leur époque. Osama a répété 3 fois. Ajri khamsina minkum. Non, il aura la récompense de 50 comme vous. Ça ne veut pas dire qu'on atteint le degré de sahaba, c'est sûr. Mais en termes de thawab quantitatif, à cette époque de corruption où le zina sera partout, où l'alcool sera répandu partout, où il y aura les pires moments de la vie de ce dunya, le musulman qui reste ferme, comme le hadith dit, hein, qui s'accroche à son dîn aussi difficile qu'on tient jamra, la braise dans la main, ce musulman-là, il aura une récompense exceptionnelle et inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retenons donc cette qa'ida, cette règle. Quand on vit dans un contexte où pratiquer la religion est difficile, et cela concerne particulièrement la jeunesse qui va au lycée, qui va à l'université, qui fréquente beaucoup de gens. Différence entre, moi je vous dis franchement, moi j'admire, différence entre un jeune de 17 ans, 18 ans, qui est au lycée, qui est dans sa classe, une classe de 35 élèves ou 30 élèves, ce jeune homme, il fréquente dans sa classe 15 jeunes filles de son âge, et que, malgré ça, ce jeune homme, il sait contrôler son regard, et il sait contrôler ses gestes, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire la bise à tout le monde. Il ne va pas faire la bise, s'il y a pour vous dire bonjour, il va dire bonjour. Parce que quand même, on ne peut pas mettre un gaulis sur la tête et aller lisser, ce n'est pas possible, d'accord? Il y a certaines réalités que les jeunes doivent affronter, nous n'avons pas besoin d'affronter ça, que les jeunes doivent affronter au lycée ou à l'université ou autre chose, et qu'Allah Ta'ala, il connaît la réalité, et qu'Allah Ta'ala, il pardonnera, Inch'Allah, le jour de Qiyam. Hein, parfois, il y a des travaux à faire en groupe. Même quand on était au lycée, vous avez des travaux à faire en commun. Vous avez un groupe, vous êtes à 5, il y a 3 filles, il y a 2 garçons. Est-ce que vous savez dire le benfi, bon maintenant, mademoiselle, il faut mettre parda, sinon je ne travaille pas avec vous. C'est pas possible. Hein? Vous passez l'oral du bac. C'est une femme qui vous fait le machin. Est-ce que vous allez, si vous regardez pas la personne, il va dire que cette personne a peur, et il fuit le regard, ou alors je ne sais pas quoi. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, qu'on est de ce genre de contexte, et Allah, il sait mieux ce qu'il y a dans nos cœurs, et Allah Ta'ala sera pardonné, Inch'Allah. Donc, différence en ce jeune lycéen, qui dans sa classe a 15 filles, et qui sait contrôler son regard. Et que si vraiment il faut parler, c'est pour le travail de la classe, d'accord, mais qui ne va pas mailler la main autour du cou, ou alors faire la bise, etc., etc. Différence entre cette personne et une personne qui, d'un certain âge ou autre, qui vit entre la masjid et sa maison. Et qui, je dis un exemple, hein, qui habite en face, l'immeuble en face, il traverse la rue pour venir à masjid. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas de fitna. Alhamdulillah, son regard est préservé. Alhamdulillah, tant mieux pour cette personne. Mais en termes de sacrifice, ce que ce jeune va faire, c'est exceptionnel. Je me souviens, à l'époque, on était à l'université, j'étais à la fac de lettres. Le mercredi après-midi, on avait module de grammaire. Depuis 2 heures, depuis 14 heures jusqu'à 18 heures. 4 heures de grammaire. Dans les travaux pratiques, dans une classe de 30 personnes, j'étais le seul garçon. 29 filles. Là, vraiment, ça, il faut, subhanallah, d'accord? Ça, c'est des sacrifices à faire. Et puis Allah protège, alhamdulillah. Donc, ce que nos jeunes vivent comme fitna, qu'ils le veuillent ou non, à notre époque, surtout dans ce genre de les établissements scolaires, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le fitna. Pas besoin. Hein, quelqu'un, il vit dans Majid, il veut faire une bêtise, il faut rôder. Quelqu'un habite dans un pays arabe. Quelqu'un habite Makkah, Madina, même Jeddah, Riyad et tout. Il veut faire des bêtises. Il faut chercher. Il faut aller rôder dans les endroits, les petits quartiers, un peu bizarres et tout, pour trouver des bêtises. Mais dans un contexte comme à La Réunion, le fitna, il vient à vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, il vient à vous. Mais celui qui, dans ce contexte difficile, il sait rester ferme dans l'obéissance d'Allah, il sait faire mettre un mur entre lui, Shaytan, entre lui et le haram, ça, c'est exceptionnel. Et moi, je vous assure, ces jeunes de La Réunion qui savent se protéger, Inch'Allah, ils seront directs sous le trône d'Allah. Ce n'est pas nous qui décidons. Mais vu le niveau de sacrifice, et vu le niveau de fitna, vous savez qui c'est qui peut nous dire le niveau de fitna? Les étrangers. Ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils voient le fitna, là, ils vous disent que vraiment, La Réunion, c'est, ils disent pas que c'est pourri, mais c'est un degré de fitna insoutenable. Là, et ces jeunes qui savent rester dans l'obéissance d'Allah, assurément, ils auront leur place, Inch'Allah, sous l'ombre du trône d'Allah. Faites passer cette bonne nouvelle à tous nos frères et à nos sœurs, lycéens et lycéennes, universités ou collèges, collégiens, collégiennes, pour ceux qui sauront respecter les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un exemple qu'on avait déjà cité. Quand vous êtes jeune, vous pouvez aller en boîte. Quand vous avez la barbe blanche, on ne vous prend même pas. D'accord? Même si vous payez, on ne vous prend pas. Ça, c'est clair. Quand vous êtes jeune, vous sifflez une fille, la fille se retourne. Quand vous êtes vieux, vous soufflez une fille, la fille vous donne une claque du vieux pervers. C'est comme ça. Taïb. Alors, et l'exemple classique, hein, le meilleur exemple, c'est l'exemple de Hazrat Yusuf alayhi salam de le Coran. Yusuf alayhi salam était d'une beauté exceptionnelle. Une beauté, l'homme le plus beau au monde, à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que la beauté de Yusuf alayhi salam était apparente, tout le temps. 24 heures sur 24. Tandis que la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait apparaître à certains moments. Aïcha dit qu'elle trouvait, je ne sais pas, pour tricoter ou pour coudre de la lumière avec le visage ou barak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce pas quelque chose d'apparent en permanence. Mais la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam était supérieure, nettement supérieure à Yusuf alayhi wa sallam. Et donc Yusuf alayhi wa sallam a été exposé au fitna. Il est jeune, il est beau. Taïb, et il est dans le palais de la reine, Al-Malika, de la reine. Taïb, et cette reine, elle est jeune, elle est belle, et elle a un nasab, une haute lignée. Et de, selon certains, Qasr al-Nabiyyin, si je ne me trompe pas, pas le, dans cette Qasr al-Nabiyyin, dit que le roi ne pouvait avoir d'enfant. Je ne sais pas, est-ce que le roi était impuissant ou non. Donc cette femme, cette jeune princesse, cette jeune femme, n'était pas satisfaite de son mari. Donc là, il voit un beau jeune homme qui a tous les attributs, une beauté exceptionnelle. L'histoire que les femmes se coupaient les doigts en voyant ça, ça c'est pas des fables, ça, hein? Ça c'est hakir, c'est la vérité. Donc, Yusuf alayhi salam, il a tout. Il peut avoir cette femme qui est jolie et qui correspond à ce qu'un jeune homme recherche. Mais il a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, ce qu'Allah ta'ala attend de ces jeunes pour les emmener, pour les mettre sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire passer la crainte d'Allah avant les shahawat, avant le désir. Et souvent, il y a des jeunes qui se disent que oui, mais nous les jeunes, il faut laisser le temps, laisser la jeunesse passer. Vous pouvez laisser la jeunesse passer, mais cette jeunesse-là, vous ne rattraperez plus jamais. Les sawabs de la jeunesse, vous pouvez laisser passer. C'est-à-dire, vous faites juste vos cinq namaz et puis vous faites. Ben, il y a, combien dans des blogs, pas des blogs, dans nos groupes, hein, on reçoit des messages privés de certaines personnes, des groupes de Facebook. J'ai un jeune hafez qui m'explique tout le temps, il dit voilà, on a besoin de nasihat. On a des hafez al-Quran qui font tout et n'importe quoi. Comme quelqu'un normal. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dit que Mouana, expliquez-nous comment ça se fait que nous, en tant que hafez, on fait telle chose comme tout le monde. Taïb ? Allah musta'an. Qu'Allah donne tawfiq, vraiment. Allah musta'an. Taïb, on continue, inshallah. Donc, où est-ce qu'on était ? Oui, alors donc, ces jeunes, ils se disent que ben, il faut laisser la jeunesse passer. Mais si vous laissez la jeunesse passer, peut-être qu'à un certain âge, vous reviendrez vers Allah, mais ce moment-là, comme on a dit, on ne pourra jamais le rattraper. Alors, les sahaba, eux, ils avaient compris que dès les premiers jours de l'islam, ils sont restés dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des chiffres qu'on a déjà dit, mais on le rappelle pour nos jeunes, on le rappelle pour ceux qui écoutent donc les programmes, taïb. Souvent, on pense que les sahaba, souvent, c'est l'image qu'on a, que les sahaba, c'était des vieilles personnes, la barbe blanche, grande barbe blanche qui arrivait jusqu'à leur nombril, et ils étaient tous avec des grands turbans géants, et ils étaient autour du prophète sallam, la tête baissée, comme ça. Voyez, on n'imagine même pas que les sahaba étaient des jeunes, comme vous et moi. Comme vous, moi c'est fini, j'ai 30 ans, donc c'est plus aussi jeune. Les sahaba étaient jeunes. Voyez, Hazrat Ali, radiallahu anhu, dans la force de l'âge, Hazrat Ali avait 18 ans. 18 ans, un jeune, quoi il fait de nos jours? 18 ans, j'ai des élèves qui disent, mais ça, 18 ans, une fille là, qu'est-ce qu'il dit, 18 ans, majeur, papa, maman n'a plus rien pour faire avec moi. Mais ça, avec mon gars, mais dégage. Une élève m'a dit ça. Elle a dit, si mon gars, demain, viens, reste avec lui, mais reste avec lui, papa, moi, il n'y a plus touché à moi. Allah Moustan. Élève m'a adressé à qui dit ça. Allah Moustan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une réalité. Saad, j'avais écrit Saad, je ne sais pas si c'est Saad ibn Ma'ad ou Saad ibn Abi Waqqas. Saad, radiallahu anhu, était âgé de 17 ans. Taïb. Suhaib al-Rumi, radiallahu anhu, celui qui, lorsqu'il voulait quitter la Mecque, lorsqu'il voulait quitter Makkah pour émigrer à Madina, Munawwara, les Quraysh, ils l'ont arrêté de dire, où ça va, la Suhaib? Il a dit, tu es venu chez nous, tu étais pauvre, et tu as travaillé, tu t'es enrichi, tu prends tes biens, tu pars avec Mahomet, avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux vraiment partir, laisse tout. Suhaib a dit, je laisse tout. Un jeune de 19 ans, qui laisse tout ce qu'il a eu dans sa vie comme bien, pour Allah, et qui va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, on oublie ça, que les sahaba étaient des jeunes hommes, et les sahabia, leur épouse, étaient des jeunes femmes également. Al-Arqam, le premier muassis, le premier madrasa de l'islam, Al-Arqam était un enfant de 11 ans. De nos jours, un enfant de 11 ans, il joue PlayStation, il joue PSP, il joue je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'un enfant, il a ce fitar de ummat, que je donne ma maison pour faire la première madrasa de l'islam? où les sahaba pouvaient enseigner le Coran. Uthman ibn Affan radiallahu anhu était âgé de 20 ans. Zayd radiallahu anhu avait 20 ans. Et Zayd à cet âge, il était katibul wahi. Il écrivait le wahi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la révélation descendait, Zayd radiallahu anhu était scribe, il écrivait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, un jeune de 20 ans, il écrit quoi? Il écrit des SMS, il écrit sur MSN, il écrit sur Facebook. Bas. Pensez la différence entre Zayd radiallahu anhu et le jeune de notre époque. Moi, j'ai des élèves qui m'envoient des questions, ils m'écrivent en langage SMS, je ne comprends rien. Ils écrivent, je ne comprends rien. Il y a des lettres comme ça, il y a des petits chapeaux, il y a des petits de lin et tout. Ben, je fais comme si je comprends pour rester dans le move, hein. Sinon, je comprends pas. Hein, ils savaient créer tout ça. Ils créent tout n'importe quoi. Vous voyez? Zayd radiallahu anhu, à 20 ans, il écrivait la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui était nisful islam, comme on avait expliqué, les ulama disent que c'était la moitié de l'islam. 5 fois ce qu'il a dit a été rejoint par le wahi. Umar ibn al-Khattab était âgé de 26 ans. Regardez le jeune de 26 ans, où ils sont celui qui, lorsqu'il était sur un chemin, shaitan traversé. Tellement il avait peur de Umar ibn al-Khattab, dans la force de l'âge, la force de iman, Umar était âgé de 26 ans. C'était pas un grand monde de 80 ans, excusez-moi. Ils étaient des jeunes, les sahaba. Et si la hijrat a réussi, l'émigration vers Médine a eu un succès, c'est grâce à Ali, radiallahu anhu, biznillah. C'est par l'intermédiaire des jeunes Ali radiallahu anhu. C'est par l'intermédiaire de Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu anhu. C'est par l'intermédiaire de la fille de Abu Bakr, si je ne me trompe pas, Asma bint Abi Bakr. C'était des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont permis, qui ont aidé le prophète sallam à émigrer vers Madina Munawwara. Donc la Nusrat est toujours venue dans l'islam de la main des shabab, de la main des jeunes. Donc c'est le chapitre, la question concernant la jeunesse, comment l'avez-vous passé? Voyez, on a 26 minutes, on fait encore 4 minutes, Inch'Allah, pour compléter 30. Voyez. Deuxième point, bon là, on va être un peu plus rapide, hein, parce qu'on aimerait en finir pour passer au hisab dans 2 semaines, Inch'Allah. La question qu'Allah Ta'ala posera à chaque personne concernant les biens qu'Allah Ta'ala a accordé, et on répète encore la règle, plus on a eu de la part d'Allah, plus on aura à répondre comment vous avez eu ces biens et comment vous avez dépensé. Et si Allah a accordé à quelqu'un, est-ce qu'il a fait preuve de générosité? Est-ce qu'elle a dépensé ses biens dans le haram? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Je ne comprends pas, il y a des gens qui sont multimillionnaires, ils continuent à investir de l'immobilier en faisant des prêts haram avec les banques. Sachant que jusqu'à leur mort, elles ne jouiront jamais de la totalité de leurs biens. Ça c'est incohérent. Ça c'est la maladie de l'argent. Que même si cette personne d'aujourd'hui, elle arrête de travailler à 21h, à 22h, et qu'elle ne travaille plus jusqu'à la fin, même si la personne a 40 ans, jusqu'à sa mort, elle a de quoi vivre comme un roi. Mais malgré ça, elle continue à travailler. Mais ce n'est pas un problème de travailler. Malgré ça, elle continue de travailler avec le haram. C'est ça le gros problème. Bien que continuer à contracter des contrats avec le riba, l'intérêt ou d'autres types de transactions haram, alors si la personne a eu les biens de la part d'Allah et l'a utilisé dans le mauvais chemin. Ou troisième cas de figure, la personne a fait preuve d'avarice. Gardez tout pour elle. Pas de sadaqa, pas de zakat, donnez pas pour la massa, etc. Alors la personne, elle croit que plus je garde, plus j'ai. Mais le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala dit au Coran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. En ce sens, la personne qui garde là, elle croit que c'est bien. Mais moi aussi je crois. J'ai un billet de 20 euros. Il y a un pauvre qui me demande un petit monnaie, etc. Si je donne 10, il me restera 10. C'est-à-dire, j'ai moins. Mathématiquement, c'est comme ça. Mais pour Allah Ta'ala, vous donnez 10, Allah il vous donnera, Wallahu a'lam, combien, hein? Verset du Coran dit que c'est comme un épi qui a plusieurs machins, qui se multiplie. Taïb. La personne, il croit que c'est mieux. J'ai pas donné, donc j'ai plus. Il croit que c'est bien, mais c'est sharrul lahum bal huwa sharrul lahum. C'est ça, ce sera contre cette personne, le jour du Qiyamah, et principalement ceux qui ne donnaient pas la zakat, etc. C'est Allah musta'an, et qu'Allah nous en préserve. Et on va terminer avec ça. Les ulama disent en commentaire, le hadith également, que le plus beau jour pour ce riche qui donnait dans la masjid, dans la madrasa, etc., etc., dans le chemin d'Allah, le plus beau jour, ce sera le jour du Qiyamah, où elle va voir le résultat de tout ce qu'elle a donné dans le chemin d'Allah. Même si on n'est pas riche, même si on a un SMIC, on a un salaire très maigre, et que régulièrement on donne 10 euros tous les jumas dans la masjid. Ou alors, même 5 euros, même 2 euros, qu'on aide quelqu'un, on aide une famille pauvre, ou on aide masjid, ou on a investi dans madressa ou autre chose. Alors, cet argent qui est donné là, est-ce qu'on voit la couleur? On voit pas, hein. C'est parti, on voit plus. Taïb, le jour de Qiyama, ce sera le plus beau jour de notre vie. Parce que c'est ce jour-là qu'on va voir tout ce qu'on a donné dans le chemin d'Allah. Tout sera présent en termes de sawab, en termes de récompense. C'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, on doit dire aux membres de la famille, aux enfants, aux proches, que là, la personne, elle a quitté ce dunya, et elle va retrouver toutes les sawab auprès d'Allah. Faut pas être triste pour la personne. Au contraire, la mort, c'est une gratification pour le croyant. C'est pas un hadith, hein. Je dis de mes propres termes, c'est comme un Eid pour le mu'min. C'est une fête pour le mu'min. Elle va retrouver les sawab auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, on dit, la mort, c'est rahatul mu'min. C'est la quiétude, la tranquillité pour le musulman. Il n'y a plus de difficultés dans le dunya. Plus de maladies, plus de problèmes. Et il n'y a que du bénéfice, que du cash, que des sawab, des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jour de Qiyama, qu'Allah fasse que nous fassions partie de ces gens qui verront les bonnes actions et leur investissement dans le chemin d'Allah multiplié comme Allah le sait, le jour de la résurrection. Et vous savez, mes chers frères, qu'entre autres, en donnant la sadaqa, on a des récompenses, comme on l'a dit. 10 euros, c'est pas 10 neki. C'est multiplié par 700, voire plus, Allah seul le sait. On sait qu'en plus de ces sawab, la personne qui donne la sadaqa, ça c'est daf'ul bala. Quand on donne la sadaqa, ça éloigne les balas, ça éloigne les mauvaises choses. Hein, qu'on a des enfants qui sont souvent malades ou autre chose et tout, il faut donner la sadaqa. Parce que la sadaqa, ça protège des malheurs. Il y a quelque chose de mauvais qui est écrit dans le taqdir. La sadaqa éloigne, inshallah, bi'idhnillah, les choses mauvaises. Taïb. Également, la sadaqa, dans certains hadiths, dans certains riwayats, il dit qu'il faut donner la sadaqa pour les personnes qui sont malades. Quand quelqu'un est malade, il faut donner la sadaqa, ça éloigne, ça apaise la maladie. Il y a beaucoup de fadail, c'est pas le moment d'en parler. Et le meilleur des sadaqa, c'est lorsque on est dans une situation pas trop à l'aise. Évidemment, qu'on a 10 millions d'euros à la banque et on donne 100 euros. C'est bien 100 euros, mais ça ne vous fait pas grand chose. Mais quand vous êtes smicard et que vous donnez 20 euros, 20 euros, il fait mal ça. 20 euros, c'est quand même de l'argent. Quand vous avez le SMIC, vous donnez 20 euros, ça c'est exceptionnel. Vous donnez 50 euros, ça c'est fort ça. Parce que vous avez donné alors que vous-même vous en avez besoin. Vous avez donné alors que vous-même vous en avez besoin. Voyez. Et le sadaqa le plus apprécié par Allah, c'est on donne de ce qu'on aime. Maintenant, le birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. On donne de ce qu'on aime. Voyez. Min ahabbil amwal. Voyez. Et puis, on va terminer en 2 secondes. Autre question, c'est concernant la connaissance religieuse. Plus on a de connaissances, plus il y a hisab dessus. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le Coran. Le hufaz du Coran, ils ont le Coran dans leur cœur. C'est bien, c'est pas bien. On est content, on fait des fêtes, des jalsa et tout. Mais ils ont en même temps les ordres et les interdits d'Allah dans leur cœur. Et donc, ils ont à respecter ça. Quelqu'un qui a le Coran dans son cœur, il a de son cœur la totalité des ordres et des interdits révélés dans le Coran en 23 années. Et donc, cette personne, auprès d'Allah, certes, elle a un grade, mais elle a une responsabilité. Son grade n'est pas comme quelqu'un qui n'est pas hafiz. C'est sûr, elle aura un grade supérieur. Mais attention, la responsabilité de ce hafiz n'est pas la responsabilité du non-hafiz. C'est pour ça que, par exemple, le hadith, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Le Qur'an, il attestera soit pour vous, soit contre vous. Soit vous avez mis les ordres du Qur'an en pratique, soit on a fait le hifz, et on révise pour Tarawih, et puis tout le reste, on ne connaît pas. Ça, c'est valable pour quelqu'un qui révise toute l'année aussi. Hein. Quelqu'un peut être Yad, tout Mutashabihad, il connaît, il peut lire certaines Fajal, il peut finir, Mashallah, Yad, d'accord. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Une personne peut maîtriser les 7 lectures. Vous voyez, avoir une voix exceptionnelle. Mais ce n'est pas ça l'objectif, mes chers frères. Ça, c'est un plus. Chaque lettre lue, c'est des récompenses. Hasana, Alif, Lamim, chacun sur Hasan. Il n'y a pas d'autre, mes chers frères. Mais si avec ça, il n'y a pas la amal, il n'y a pas la pratique, le Coran, il est contre le jour de Qiyama. Qu'Allah nous protège. Voyez. Je sais quand le cheikh Mohamed Al-Arifi était à Saint-Pierre, il écoutait ces jeunes hafiz qui lisaient, il était impressionné. Il m'a donné un rapport. Il m'a dit qu'il a fait un super rapport sur l'île de la Réunion. Il a dit comment il y a un nombre de huffas, de massages et tout et tout. Mais il n'a pas manqué de faire passer un message dans le Jalsa de Saint-Pierre. Il a dit que vous avez certes des huffas. Maintenant, réfléchissez comment est-ce que ces enfants, ils vont avoir un contact direct avec le Coran. Pas juste un contact par rapport au hifz et muraja'a et qira'a ou tarawih, non. Également, comment ils vont comprendre le Coran pour le mettre en pratique. Parce que si on ne comprend pas rien, tout à l'heure on a lu wal asri, Allah musta'an. Je ne sais pas parmi nos jeunes de 15-16 ans, combien de jeunes sont capables de comprendre ce qu'Allah dit wal asri. Allahu musta'an. Taïb, si on n'a pas un contact direct, soit par le biais de la langue arabe, soit par le français, mais en étudiant le tafsir du Coran, alors qu'est-ce que ces jeunes vont profiter du Coran? Donc ce n'est pas un objectif, hein, taïb, de faire de beaux qira'ats, de grandes assemblées. Il faut faire le fikar, continuer. Et il y a un de ulama de la Réunion, alhamdoulilah, qui a une excellente idée récemment. Il a un projet, c'est quoi? Il a un projet de faire les Coran 13 lignes, les Coran 13 lignes, là, de faire, d'enseigner à ses élèves avec la traduction. Pour l'instant, ça n'existe pas. Les Coran traduits en français, ce sont les Coran qui viennent de Madina Munawara, Matba'a Malik Fahad, mais c'est des Coran 15 lignes, et c'est pas la calligraphie Uthmani, donc nous, on ne peut pas lire ça, c'est difficile. Mais Inch'Allah, on a un projet, les Coran 13 lignes, comme nous on lit, on va essayer de faire un découpage de la traduction pour qu'on ait une édition de Coran 13 lignes, Coran arabe à droite et le français à gauche. Et avec cet objectif, cette intention, que lorsqu'on enseigne à un enfant une page de sabak en arabe, quand il a fini de lire son sabak, il a lit jouer, il n'y a rien à faire. Il lit la page en français et si on a le temps. Ça c'est un rêve, hein. Wallahi, ça c'est un rêve, hein. Mais Inch'Allah, que ça se concrétise, qu'on ait une autre vision de l'enseignement un jour. Qu'un jour on comprenne qu'il faut en plus d'enseigner aux enfants de lire correctement le Coran, mais que ces enfants comprennent le Coran pour pouvoir le mettre en pratique dans leur vie. Je pense qu'on va s'arrêter à là. La prochaine fois, il y a un dernier point, mais ça c'est un peu long. Les questions concernant tous les ni'mat. N'importe quel bienfait qu'on a eu, mis à part ce qu'on a cité. Et on va avoir des bienfaits qu'on n'imagine même pas que c'est un bienfait. Là-dessus aussi, il y aura des réponses. Jour de Qiyamah, comme Allah a dit le Coran, Tumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs, nos manquements, qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire mal, de mettre en pratique. Et on profite, hein, qu'on a une assemblée qui sera écoutée, Inch'Allah, par d'autres personnes. On a un projet, un grand projet, Inch'Allah, une première, je pourrais dire une première, hein, le dimanche 5 juillet 2009, Inch'Allah, nous avons organisé une rencontre entre les jeunes de la Réunion, de toutes les de la Réunion, limite d'âge 15 à 25 ans. Taïb. Une rencontre avec quelques jeunes alims de la Réunion. Il y aura 5 ou 6, Inch'Allah. De Saint-Denis, il y a Moni Bagat, Inch'Allah. Il y a Mufti Lukman, un gars. Et Inch'Allah, moi-même, je vais essayer de participer. Après, il y aura d'autres personnes. Il y a Moli Anas, il y a Moli Ishaq Patel. Il y aura, alhamdulillah, pas mal de 5 ou 6 ulama. On va faire donc une réunion, mais il n'y aura pas de bayan. Contrairement aux autres programmes de EADJ ou alors des programmes de Djour, il n'y a pas de bayan. Ça, je me suis fait la promesse, pas de bayan. Parce qu'on ne va pas saouler les jeunes. Parce qu'on vise des jeunes également qui ne sont pas toujours accros à la masjid. Parce que ceux qui viennent à la masjid, ils vont écouter les bayans, les tabliques et tout. Donc, on va essayer de ramener le maximum de jeunes. Hein, ça se fera le dimanche 5 juillet à 14h, Inch'Allah, à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis. Alhamdulillah, la récompense, c'est une personne qui nous a fait obtenir la salle. Et donc, il y aura, dès maintenant, bon, ça, on ne va pas entrer dans les détails, dès maintenant, on a ouvert les inscriptions depuis hier soir, et ce matin, on a envoyé encore beaucoup d'invitations. Et on a ouvert une adresse mail à laquelle les jeunes ils vont s'inscrire. Et dès maintenant, ils envoient leurs questions. Et on a déjà récolté une certaine quantité de questions. Et je peux vous assurer que ce n'est pas des questions faciles. Ce n'est pas des questions de masla, comme j'ai déjà dit aux collègues qui vont participer. Ce n'est pas un jeune qui va vous demander, Moussa m'a fait vos zoom, m'a lavé le pied gauche, m'a avant le pied droit, est-ce qu'il compte? Non, ce n'est pas ça qu'ils veulent savoir. C'est des questions directes. Alors, sur notre site, on a des jeunes qui écrivent des questions que je ne réponds pas parfois parce que je ne sais pas quoi répondre. Vous voyez? Il y a une jeune fille qui écrit, qui dit, ben voilà, donnez-moi une bonne raison pour continuer à garder mon châle. Hein, bon, on ne parle pas de la loi dans les classes, hein, à rester, à avoir une tenue correcte, alors que tout est fait pour que je m'habille comme tout le monde. Il y a un tel contexte de dépravation que je n'arrive pas à rester dans ma religion. Donnez-moi une bonne raison, donnez-moi des conseils. C'est-à-dire, c'est comme cette personne, il demande une issue de secours. Hein, tendez-moi la main, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans ma religion. Ce n'est pas une question qui vient de Paris ou de New York, hein. C'est des Réunionnais qui posent ces questions, des Réunionnais et des Réunionnaises. Des questions, mes chers frères, vous saviez le contenu de ces questions, comment des jeunes ils sont dans des situations délicates et difficiles, mais on remarque à travers ces questions qu'il y a un désir, il y a une envie de retourner vers Allah, mais dans un contexte trop difficile. C'est-à-dire qu'on est tellement éloigné, on vit des situations tellement compliquées, que quand on vous écoute, c'est bien, mais pour faire le pas, pour arriver à ce que vous expliquez, c'est impossible. Vous ne pouvez pas nous demander de vivre de telle manière alors qu'on est dans tel environnement. C'est des questions existentielles. C'est ça qu'on voudra, Inch'Allah. On va essayer de répondre, essayer d'apporter des réponses lors du EADJ 2008, qui était quelque chose d'exceptionnel, alhamdoulilah. On s'est rendu compte que pour un programme, on a eu deux boîtes de questions, des boîtes de chaussures, des questions anonymes. une boîte du côté des garçons, une boîte du côté des filles. On avait prévu 30 minutes pour répondre aux questions. On a dû répondre à 10 questions. Là, on s'est rendu compte que les jeunes, ils ont des questions à poser. Alors, soit on aura des micros baladeux, Inch'Allah, pour ceux qui ont du courage pour poser des questions. Et également, le système de boîte à questions anonymes. Et également ce qu'on est en train de collecter sur Internet avec les questions. Je vous assure que les jeunes, ils ont une envie de retourner vers le dîn, mais ils ne savent pas comment faire. Taïb. Et donc, Inch'Allah, faites doigt qu'Allah Ta'ala, ils mettent le succès, la sincérité avant tout, et le succès de ce programme, que par l'intermédiaire de ce programme, Inch'Allah, beaucoup de nos jeunes, ils trouveront les moyens pour retourner vers Allah, pour se raccrocher au dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a l'intention de faire un suivi régulier. Hein, c'est pas une seule fois qu'on a fait ça et puis c'est tout. De répéter l'événement si ça marche, Inch'Allah, tout le temps, tous les ans, Inch'Allah. Et on va ouvrir un forum également pour garder un contact permanent avec ces jeunes. Ils ont des questions, ils ont des remarques, ils ont des choses à dire. Et on sera un petit groupe de ulama pour essayer de répondre de manière permanente à ces questions. Donc faites passer également l'invitation. Si on a des enfants de 15 ans jusqu'à 25 ans, on a des jeunes frères, des neveux, des nièces ou autre chose. Les inscriptions se font sur l'adresse internet qui en ce moment est en train de circuler un peu partout. Qu'Allah Ta'ala il donne la réussite, le succès total de cette entreprise et que ce soit un moyen de hidayah pour nos jeunes. Subhanallah Rabbika. Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa Salamun Ala Al-Mursaleen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakum Allah Khair.